Ici, comme j'ai la maison la plus haute du village, il y a beaucoup d'animaux sauvages qui viennent des sangliers dans le jardin la nuit. Quelques mouflons, il y a un blaireau qui est venu me voir l'autre jour, etc. Et j'ai un crapaud qui depuis plusieurs années, habite là en bas des escaliers, quelque part, je ne sais pas où exactement, et qui de temps en temps vient passer un moment avec moi.
CO2, mon amour.
Non, vraiment, là, vous m'avez montré une photo,
il est sur
votre épaule.
Oui, il vient sur mon épaule, il aime beaucoup ça. Il reste, il me regarde travailler, mais quelquefois pendant une heure, sans bouger, comme ça.
Oui.
J'avais autrefois un serpent, j'avais une couleuvre qui était là au fond du jardin, que j'aimais beaucoup aussi, que je prenais souvent avec moi, et un jour, je l'ai vu passer dans le ciel entre les griffes d'un oiseau de proie, d'un milan.
Oui.
Et ça m'a beaucoup attristé.
Avec Denis Chessou, sur France Inter.
Voilà, ça c'était un petit inédit, évidemment, donc ce petit clin d'œil. Et comme il y a eu beaucoup donc d'hommages, et c'est tout à fait normal, donc à Jean-Claude Carrière, et encore cet après-midi, avec Vincent Josse et le Grand Atelier, bah écoutez, nous, vous avez entendu les cigales, là, donc c'était chez lui, dans l'Hérault, en pleine nature, et bien je vous rediffuserai donc ce reportage que l'on a remanié aussi avec des inédits, ce sera pour le mois de juin. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine, l'émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite, qui tente de rapprocher les hommes et la nature. Avec aujourd'hui Clément Berman à la technique et assisté de Camille Blanès, c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Oh bah oui, on va être dans l'actu. Dites-le avec des fleurs à la Saint-Valentin et plutôt deux fois qu'une, mais pas n'importe lesquelles. Petit focus sur les fleurs coupées que nous, Français, peuple aussi sentimental que bucolique, importons gaillardement, essentiellement depuis les pays des tulipes et des moulins à vent, qui lui-même pratique une cueillette intensive dans les pays du Sud, depuis le Kenya notamment. Alors, séduisante, mais ces jolies fleurs ont un côté un peu peau de vache, qui dissimule quelques surprises passées sous silence par les producteurs. Ah bah oui, autant de beauté cache une gourmandise sans borne en énergie, en eau, en produits chimiques. Une chimie pas toujours homologuée que des ouvriers payés au lance-pierre appliquent au mieux en Bermuda. Alors on trouve jusqu'à 25 substances chimiques interdites en Europe hein, dans un bouquet de fleurs importées. Et puis, pour être sûr d'obtenir de magnifiques floraisons, bah, faut gaver en fertilisant des sols qui n'en peuvent déjà plus. Alors il est intéressant de constater d'ailleurs que même en incluant le transport aérien vers l'Europe, bah, une rose kenyane émet 6 fois moins de CO2 qu'une rose néerlandaise bichonnée dans des serres surchauffées en plein pot. Ah bah oui, c'est comme ça. Côté intrants, c'est donc le bouquet. Mais donc, si vous restez fleur bleue, je vous le souhaite, avec le regard langoureux de votre marguerite, églantine, violette, jacinthe, garance, ah, appelez-moi garance, capucine, iris, marie-rose. Donc, vous adorez, eh ben, le problème, c'est que c'est à ce prix-là que ça se passe. Déconseillez-lui, cependant, de plonger son museau charmant dans votre cadeau, parce que des rhinites allergiques et des risques cutanés pourraient bien plomber votre soirée de tourtereau. Oh, mon amour, pourquoi tu te grattes soudain le nez aussi frénétiquement, tout en éternuant partout, hein, oui. Comme ça ne se penche pas, il n'y a pas de réglementation et pas de limite dans l'overdose de produits chimiques employés. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même des fleurs locales, issues d'une agriculture un peu plus cool? Eh ben si, sauf qu'elles sont plus difficiles à trouver que l'âme sœur sur un site de rencontre. Mais les possibilités éco-responsables existent, comme à Fleurs de Cocagne, qui se trouve dans l'Essonne, et puis Fleurs d'ici, entreprise fondée par deux femmes engagées dans l'économie sociale et solidaire. Elles ont créé une solution digitale qui permet la vente de fleurs 100% locale et de saison, inspirée par le mouvement Slow Flower. Voilà, donc Fleurs d'ici, ça veut dire que des nouvelles alternatives ne demandent qu'à fleurir, même si elles sont encore simplement en bouton. Alors, question écolo-philosophique, puisque nous avons Patrick Vivret avec nous quand même. L'amour est-il aussi peu durable que le développement, hein? Alors, offrez un bouquet de jolies branches mortes coiffées de papier crépon à votre dulciné. Ça, au moins, c'est de saison, et le bilan carbone est franchement positif. Alors d'accord, c'est un peu un crash test, mais si ça passe, c'est qu'elle vous aime vraiment et qu'elle a de l'humour. Ça, cher Patrick Vivret, c'est quasiment du créatif culturel, cette histoire. Bonjour à vous, Patrick Vivret.
Bonjour.
Alors, Patrick Vivret, vous êtes philosophe, vous êtes essayiste, vous avez été magistrat, enfin, vous êtes magistrat honoraire à la Cour des comptes. Vous avez été auteur d'un rapport interministériel, une autre approche de la richesse, donc vous connaissez bien cela. Et puis, vous êtes aussi le cofondateur des rencontres internationales, de ces dialogues en humanité qui, évidemment, permet d'avoir une autre vision un petit peu du monde. Dire pour commencer, donc vous scrutez notre humanité qui est aujourd'hui sur une ligne de crête et vous faites d'ailleurs une métaphore géologique avec cela.
Oui, je dis souvent que nous sommes à la rencontre de deux plaques tectoniques. Il y a la plaque tectonique qu'on connaît bien, qui est la plaque tectonique de l'économie, essentiellement organisée autour de la monnaie et des indicateurs de richesse classique. Et puis, il y a la plaque tectonique écologique, celle qui s'est exprimée pendant longtemps, essentiellement à travers soit les catastrophes naturelles, soit tout simplement le fait que, par le biais de l'agriculture, on constatait que la vie était présente. Mais pour l'essentiel, cette plaque tectonique, elle était, au cours des deux derniers siècles, beaucoup plus enfouie que la plaque tectonique économique, qui pourrait être superficielle, elle, était envahissante. Et ce qui se passe depuis une trentaine d'années, c'est que la plaque tectonique écologique, elle est remontée à la surface et qu'elle rentre en conflit frontal avec la plaque tectonique économique. Et régulièrement, on se rappelle que les enjeux écologiques sont déterminants. Le problème du dérèglement climatique, le problème de la biodiversité. Mais le naturel revient très vite au galop, et même si on est sincère, ce qui n'est pas toujours le cas, mais même quand on est sincère pour dire prenons en compte les enjeux écologiques, eh bien, dès qu'on se réoccupe des problèmes de fin du mois et pas de fin du monde, on voit réapparaître les emplois classiques, le système monétaire dominant, les indicateurs de richesse classique, etc. C'est ça, ce conflit qui est aussi bien à l'échelle macro-planétaire que dans nos vies, dans nos propres territoires. J'entendais dans les reportages sur la question de la montagne, on dit catastrophe, le tourisme, parce que les remontées mécaniques ne fonctionnent plus. Mais on sait bien, par exemple, moi, je suis montagnard d'origine, qu'il y a quantité d'autres choses qu'on peut faire dans la montagne que du ski avec des remontées mécaniques. Mais ça veut dire à ce moment-là qu'on quitte le terrain de l'économie monétaire classique pour se réinterroger sur les vraies richesses, c'est-à-dire qu'est-ce qui compte vraiment.
Et vous réinterrogez aussi, Patrick Vivret, les mots, c'est-à-dire que les mots économie, les mots bénéfice, les mots crédit, tout ça, donc a un véritable sens premier qui a été, allez, on va dire gentiment détourné. Lorsque l'on parle de oikos déjà au départ, ce sont donc les ressources, et puis nomos, c'est l'usage. Donc c'était ça le point de départ aussi pour notre économie.
Tout à fait. De ce point de vue-là, c'est intéressant de repartir des mots comme valeur, comme économie écologique, comme bénéfice, qui nous viennent de ce qu'on peut appeler des langues longues dans notre culture à nous, c'est-à-dire par exemple le grec et le latin.
Ah oui,
c'est des langues longues qui ont plus de 2000 ans d'existence, et que je compare avec ce qu'on peut appeler les langues courtes. Par exemple, la langue du business, c'est-à-dire l'anglais, mais l'anglais appliqué aux affaires, qui est une langue très récente. Et là, l'histoire des plaques tectoniques, on la retrouve dans le langage. Parce que si je prends, par exemple, économie écologique, oikos nomos d'un côté, oikos logos de l'autre. C'est les Grecs qui inventent l'économie. Mais normalement, la gestion de nos petites maisons terrienne, puisque c'est ça que ça veut dire, oikonomos, oikos c'est la maison, on comprend bien qu'elle devrait être subordonnée à la question de l'écologie, l'oikos logos, c'est-à-dire la gestion de notre maison planétaire.
C'est-à-dire que pour vous, l'économie devrait être un sous-ensemble de la grande maison planétaire.
Exactement, d'ailleurs, toutes les disciplines qui se terminent par logos sont des disciplines matricielles. Sauf justement dans le cas de l'économie, qui est considérée comme la discipline sérieuse, puis pendant très longtemps, d'abord l'écologie est arrivée beaucoup plus tardivement, puis pendant très longtemps on a dit bon, l'écologie c'est sympathique, mais c'est...
Oui, c'est au fond à gauche.
Exactement. Mais... Bon. Là, on se rend compte que non, normalement, l'oikos nomos dépend de l'oikos logos. Et c'est la même chose pour des mots qui nous viennent du latin. Par exemple, vous prenez le mot valeur. Valeur, création de valeur, chaîne de valeur, c'est obsédant dans le langage économique dominant. Mais la langue du business dit « value for money », c'est-à-dire l'unité de compte de la valeur, ça devient l'argent. Or, valeur dans toutes les langues latines, ça veut dire la force de vie. Et on comprend bien que c'est pas du tout la même chose de dire est-ce que je suis en train de créer de la force de vie, voire de la force de vie supplémentaire, auquel cas on peut dire que c'est de la valeur ajoutée, ou est-ce que je la détruis? Si je prends ce sens-là, ben je comprends bien par exemple que si je vais détruire un écosystème vital, oui. Et ben là, je dois l'enregistrer comme destruction de valeur. Si la souffrance au travail est telle que des personnes en viennent à se suicider, je devrais l'enregistrer comme destruction de valeur.
Alors que dans le jeu économique ordinaire, il n'y a pas de taux d'intérêt écologique.
Ben oui, exactement. Et c'est la même chose pour d'autres mots. Par exemple, bénéfice, en latin, ça ne veut pas dire solde monétaire positif, ça veut dire activité bénéfique. Et ainsi de suite.
On va rester sur l'activité bénéfique, parce que vous allez voir effectivement qu'il y a des possibles. C'est ça qui nous intéresse aussi avec Patrick Vivray. Une première chanson, on va partir à la montagne, on va revenir sur vos origines chamonnières tout à l'heure.
Because we never close, I'm open day and night. I know my way around, I walk towards the light. I'm open round the clock, I don't get lost at night. You never used to be afraid of days like these, but now you're overwhelmed by your anxieties. Left from right, because we never close, I'm open day and night. Ooh, oh, oh yeah, oh
avait dit qu'il fallait quelque chose de durable. McCartney, hein, c'est pas du durable, ça, sur France Inter, dans CO2 Mon Amour. Ben oui, et puis en plus, ça fait du bien. Ça fait du bien, Patrick Vivray, ça.
Oui, dès que c'est bénéfique, ça fait du bien.
On
et
prend.
Ça renforce le système immunitaire. Donc, c'est excellent en période de pandémie.
Ah oui, c'est ça qu'il nous faut. Alors, Patrick Vivray, donc, philosophe avec nous. En fait, vous parliez de... Moi, j'aime bien ces métaphores géologiques, naturalistes, avec les plaques tectoniques. Pourquoi cette plaque tectonique économique est donc récente, hein, dans le paysage? Pourquoi est-ce qu'elle vraiment a pris le dessus et qu'elle a tout bouffé?
D'abord, il faut bien se rendre compte que... Pendant plusieurs siècles et même pendant plusieurs millénaires, nos sociétés ont été organisées principalement autour du religieux. On le constate d'ailleurs encore quand on a un certain nombre de sociétés théocratiques, par exemple. Et le religieux y tenait tout. parce que il tenait le rapport à la nature, puisque Dieu et nature étaient censés ne faire qu'un. Il tenait le rapport à l'éthique, puisque c'était l'Église qui définissait qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était mal.
Moral, qu'est-ce qui était pas mal, oui.
Du même coup, il tenait aussi le politique, le temporel était subordonné au spirituel, etc. Et donc, quand commence à apparaître ce qu'on a appelé la modernité au XVIe siècle, et puis ça s'est ensuite prolongé, le mouvement d'émancipation de la modernité, qui est tout à fait légitime, parce que justement, il va réintroduire de la liberté face à des sociétés d'ordre qui étaient extrêmement coincées. Mais
l'être humain commence à émerger par rapport au collectif.
Voilà l'être humain, comment l'individu, mais au sens de l'individuation, pas de l'individualisme. Simplement, dans ce mouvement d'émancipation de la modernité, avec tous les bons côtés qu'elle peut avoir en termes de progrès, d'émancipation, de liberté, etc., on va, pour ainsi dire, jeter deux gros bébés avec l'eau sale du bain des sociétés d'ordre. On va jeter le bébé écologique, parce que justement, comme le religieux tient la nature, il faut se débarrasser du rapport sacré à la nature. Donc la nature devient une pure ressource qu'il va falloir dominer, c'est Descartes. Et puis le deuxième bébé qu'on va larguer, c'est ce qu'on peut appeler le bébé éthique, c'est-à-dire justement le bébé du discernement autour de la question « qu'est-ce qui est bénéfique, qu'est-ce qui est nuisible ?» Et là, on va complètement changer de thermomètre et on va plus se poser que la question, à travers l'argent, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd ? C'est comme ça que les bénéfices vont devenir des soldes monétaires. Les pertes, au lieu d'être des destructions de valeur comme force de vie, on va dire c'est simplement des soldes monétaires négatifs, et ainsi de suite. Et évidemment, cette modernité-là, dans un premier temps, elle va libérer des énergies, elle va permettre la prospérité avec tous les effets positifs, elle va permettre le progrès technologique, etc. Simplement, ce qu'on est en train de découvrir, c'est que le bébé écologique et le bébé éthique, ils se rappellent à nous.
C'est ça.
Et que ce que on avait appelé à l'époque des sociétés religieuses l'économie du salut, parce que c'est intéressant de faire un petit peu d'histoire, il y avait l'économie du salut, il y avait la comptabilité du salut, ben, la question du salut, elle fait retour. Alors on peut le dire en termes parfaitement laïques, mais à chaque fois qu'on dit qu'il s'agit de sauver la planète, en réalité d'ailleurs c'est plus sauver l'humanité dans une planète habitable.
Oui, qui continuera à tourner.
Mais ça veut dire que la question du salut fait retour. Et si elle fait retour, ben, ça veut dire que le discernement sur la question principale, sommes-nous en présence d'activités bénéfique ou d'activité nuisible pour le vivant et les humains, redevient une question essentielle.
Alors, je sais que toutes ces réflexions, vous les avez très souvent en marchant. Vous aviez sorti il y a quelques années un ouvrage, moi je trouve très très bien, un petit livre qui s'appelle Le Bonheur en marche aux éditions Guérin avec Mathieu Baudin, parce que ça se passe justement en montagne. Vous avez commencé donc à nous en dire quelques mots. Vous êtes originaire de Chamonix, hein, de la baie de Chamonix.
Oui, oui. Toute la famille de ma mère, qui s'appelle Lucchini, est de Chamonix. Et mon grand-père était guide à Chamonix.
Oui. Il y a plutôt des Charlets, des Ravanelles là-bas. Enfin, bon,
ah oui, mais ça, c'était plutôt le sous-prolétariat, les Lucchini à Chamonix.
C'était autre chose. Alors, ce que je vous propose, que quand même, on a notre petite page nature, j'en suis un philosophe, mais oui, mais la promesse de l'émission, c'est quand même d'avoir une petite page nature, avec notre monsieur Montagne, hein, qui est Christian Couloumi. On va pas très loin, on va dans les Hautes-Alpes, on va un petit peu plus au sud avec lui. Puis tenez, on a besoin d'un peu de chaleur, c'est pas parce qu'au Pays Basque vous avez 20 degrés aujourd'hui, et ben nous on n'en a pas, bon donc on va vous en offrir. C'était durant l'été, et donc c'est avec Christian Couloumi, donc cet homme des Hautes-Alpes, qui est notre monsieur Montagne, et ça a commencé tout simplement par un bonjour.
Bonjour Denis.
Voilà, donc nous sommes avec vous, toujours dans cette merveille, dans ce département des Hautes-Alpes. Et alors là, on est face, pendant que vous prenez vos jumelles, vous avez plutôt effectivement le nez en l'air pour regarder vos aigles, que vous aimez beaucoup.
Oui, puis tout ce qui passe.
Et donc le gypaète barbu aussi, il a été relâché ici ou...
Pas relâché, voilà. Mais il pourrait être un visiteur occasionnel. On ne l'a pas encore vu ici,
On l'attend. Alors il est où en fait?
Alors pas très loin d'ici, il y a un oiseau qui semble s'être installé dans le Val d'Escrins, qui est une très belle vallée sur la commune de Vars. Ouais. Et on l'a observé depuis l'été dernier. L'hiver, il y a été observé de temps en temps, il y est de toujours. Donc
mais c'est une réintroduction
tous les gypaètes qu'on voit dans les Alpes aujourd'hui viennent de réintroduction. Lui aussi, comme les autres. Mais est-ce qu'il a été relâché ou est-ce qu'il est né en liberté quelque part? Oui. Je ne peux pas vous le dire, je ne suis pas dans le secret aujourd'hui.
On a une cabane qui nous rappelle évidemment les matériaux, c'est-à-dire que le toit est fait en bardeau. On imagine que c'est du mélèze, puisque oui, c'est quand même un des arbres dominants.
Bardeau de mélèze, mélèze traditionnel. Mélèze qui, vous savez, est un bois qui ne pourrit pas, ou peu, ouais, par rapport à d'autres. Donc il a
point commun avec le châtaignier, d'ailleurs, entre autres.
Oui, et donc il a cette vertu-là.
Comme autre vertu, parce que là, on en a plein sous les yeux, c'est toujours ce feuillage, c'est pas des feuilles, mais c'est un résineux avec une légèreté incroyable, qui en plus est très discret en hiver, puisque donc il perd ses aiguilles, et donc le sous-sol en profite, quoi, il laisse la lumière passer.
Vous voyez les jolies prairies fleuries qu'il y a dessous, sur le mélézin. C'est une forêt claire, une forêt tendre, une forêt douce, une forêt lumineuse.
Ouais.
Et elle profite effectivement à une époque. D'ailleurs, le mélèze a été favorisé, je crois, pour permettre le pâturage en même temps. Donc on pouvait à la fois récupérer du bois et du pâturage.
On commence à en trouver en Savoie, et puis après chez vous, dans les Hautes-Alpes et dans les Alpes de Haute-Provence, quoi. Mais plus au nord, c'est pas son lieu.
Non. Je crois qu'il y en a quelques bosquets dans la vallée de Chamonix, mais le mélèze, il est ici chez lui. Il y a 50% des peuplements de mélèze qui sont dans les Hautes-Alpes, hein. C'est un arbre qui a besoin de lumière. On a souvent évoqué avec vous la qualité de la lumière ici. Eh ben, le plus beau des témoins, c'est le mélèze.
Ouais. Question, vous l'avez dit, on est dans un milieu ouvert. Donc là, c'est bien. On voit un petit corridor qui permet de garder donc les bêtes. Donc on est vraiment dans l'alpage, on le rappelle, hein, parce que ce nom des Alpes, parfois les gens disent ça vient du mot alpage. Oui, c'est ça.
Oui, les Alpes, initialement, c'est ça. C'est l'endroit où on mettait les bêtes pour les pâturages. Et c'est resté ça pour... beaucoup de toponymes, les noms de lieux ici, l'Alpe de Verdun, là derrière, sur la commune des Ors, l'Alpe du Lozay, l'Alpe de Vautis, de Réautier...
Même l'Alpe d'Huez, ou bien les deux Alpes aussi, c'est ça?
Les deux Alpes aujourd'hui.
Ah, et là, on arrive. L'abreuvoir, il est fonctionnel, hein, c'est un grand abreuvoir... vert, au moins ils se fondent dans le... Non, me mettez pas la tête dedans, c'est pas la peine. Ils se fondent dans le paysage. Et donc là, on a capté une source pour les bêtes, j'imagine.
Denis, je vous prends. C'est froid au début, après...
C'est fait froid, c'est ça?
Oui, bien, après ça va aller.
Non. Après c'est bien, on va juste voir.
Les bêtes ont besoin de boire, effectivement. Vous aussi. Et l'eau est ramassée comme ça, régulièrement, dans les alpages. Ça fait partie des éléments composant l'alpage.
Oui.
Vous avez évoqué le corral, le parc de tri, ici. Vous avez évoqué la cabane. On est là devant un abreuvoir.
Ah, on n'aurait pas de pastoralisme. Là, ce serait territoire fermé.
Ce serait forêt, oui.
D'accord. Et là, le berger est là tous les jours ou bien il vient faire un tour de temps en temps ici?
Sur cette cabane-là, il va rester cet été.
Ouais. Hein,
mais il a plusieurs cabanes, selon les quartiers.
D'accord.
Le quartier de début de saison, le quartier de fin de saison. Là, on est dans un quartier de début de saison. Il y est plus ou il y sera bientôt.
Ouais.
Et donc, il sera à la cabane qui est juste à côté pour avoir son troupeau à l'œil.
Donc là, le troupeau n'est pas encore arrivé,
non.
Ici. Donc l'herbe va être très bonne parce qu'elle est déjà haute.
Vous savez comment ils disent, les bergers, l'herbe neuve. C'est
bien
joli,
ça.
Je trouve.
Ouais, oui.
L'herbe est neuve, je la garde pour la semaine d'après. Ils ont des coins avec de l'herbe neuve. Et entre eux, ils parlent comme ça. Je trouve que c'est très joli, c'est très juste.
Et après, on a le regain. Ça, c'est très joli aussi. Ça, c'est c'est la deuxième pousse, quoi.
Exactement. Le regain, c'est qui repart après que ça a été fauché ou brouté.
Décrivez-nous un peu les lieux.
On est dans un cirque, en fait, effectivement, comme c'est souvent le cas dans les fonds de vallée, avec des crêtes qui culminent là à 3000, là, au Mont Pouzinque, là-haut. On y voit encore beaucoup de névés, hein,
oui.
Beaucoup de névés. Et on peut parfaitement distinguer ce qu'on a évoqué ensemble, c'est les étages. Alors, les petits boutons de l'ascenseur, là, si on appuie dessus, nous, on est dans l'étage subalpin, on est dans les mélèzes, on vient de le dire. Et au-dessus, vous voyez la zone de combat, les arbres qui commencent à s'éparpiller, ils sont moins nombreux. Et puis on monte un petit peu, il n'y a plus du tout d'arbres. Et enfin là-haut, il n'y a plus que de la neige. Voilà.
Et là, on se retourne, Christian, de nouveau vers cette cabane de berger. Et on voit les panneaux photovoltaïques qui ont tout leur sens. Hein.
Absolument. Ici, c'est l'autonomie énergétique. Avec ça, le berger peut écouter la radio,
bien.
Peut se raser, il peut s'éclairer. Et il prend rien à personne, il n'y a pas de fil nulle part. Il y a deux panneaux qui font la moitié d'1 mètre carré chacun sur le toit de la cabane, qui sont intégrés. Et voilà,
Vous imaginez, parce que là, on est en train de pourrir du terrain agricole pour en mettre partout, je veux dire en France, on fait pousser des panneaux solaires, alors qu'on a des milliers d'hectares de surface qu'on n'utilise pas encore. Alors que ce serait d'abord la priorité avant de s'occuper des terres agricoles, quoi.
Alors aujourd'hui, le débat est là-dedans. C'est un enjeu mondial de revoir notre façon de consommer l'énergie, oui. De réduire, et de la trouver, c'est-à-dire d'utiliser des énergies renouvelables oui. et autonomes, comme c'est le cas ici. Le berger, là, il dépend de personne. Oui. De lui-même, avec son tournevis, sa batterie, ça marche, et puis c'est tout.
Alors ici, c'est aussi... Là, le soleil fait son boulot. La photosynthèse a très bien compris cette affaire-là. Donc, c'était un échange permanent entre cette lumière et puis la croissance des végétaux.
Et là, il y a toutes les petites feuilles, toutes les petites fleurs qui sont là et qui clignent des yeux vers la lumière, qui la captent et qui transforment ça en beauté.
Bon, j'espère que vous avez bien pris encore une bouffée comme ça par procuration des Hautes-Alpes. C'est vrai que l'air est quand même drôlement bien. On va redescendre, vous allez me faire goûter une spécialité que vous fabriquez vous-même. Je tiens à le préciser, il y a très peu d'alcool, c'est 3-4 degrés et c'est une merveille, c'est à base de fruits, c'est génial hein, ce que vous faites.
Très bien, bah merci des compliments, puis on va aller la goûter.
On va aller la goûter, voilà. Bah, au revoir Christian Coulomy, puis à très bientôt.
Au revoir à tous.
Voilà.
Au revoir Benny.
Qu'est-ce que c'était agréable, ça. Donc, c'était début de l'été, à peu près début juin, puisque donc les bêtes étaient pas encore là. Donc, CO2 Mon Amour, sur France Inter, avec Patrick Vivray. Donc, homme de la montagne aussi, je le disais, parce qu'en fait, vos pensées viennent aussi, cheminent, lorsque vous marchez et que vous prenez ces sentiers.
Ben, par exemple, la marche est très, très importante. Je me souviens, mon grand-père qui était guide à Chamonix, et c'est lui qui m'a appris à marcher. Et régulièrement, il me disait, mais si tu veux marcher loin, ben, prends ton temps, parce que sinon, tu vas être très rapidement épuisé. Ouais. Et c'est ce qu'on a retrouvé d'ailleurs dans le livre que vous évoquiez.
Le bonheur en marche.
Le bonheur en marche, parce ouais. que c'est une initiative qui est liée au dialogue en humanité, c'est qui ça. S'appelle Chemin Faisant, et où on chemine dans un lieu de beauté, là en l'occurrence on était à Chamonix précisément, et régulièrement on s'arrête et on prend le temps d'échanger sur des questions essentielles. Là, en l'occurrence, c'était un débat sur le bonheur, mais on entendait le bonheur au sens de comment vivre à la bonne heure, c'est-à-dire comment être intensément présent à notre vie.
Oui, vous avez raison, effectivement, il faut rappeler aussi, on peut découper ce mot de bonheur.
Et oui, c'est pas du tout la même chose de prendre le bonheur comme un coup de chance, ouais. ou de le prendre comme un art de vivre à la bonne heure, un art de l'intensité de vie. Et le rapport au temps est une des choses essentielles, moi, que j'ai appris en montagne. Quand je suis au pied de l'Aiguille du Midi et du Mont Blanc, évidemment, il y a des millions d'années qui sont devant moi. Et ces Alpes eux-mêmes qui sont devant moi sont venues d'un surgissement venu de la mer. Hein, la plaque tectonique ouais. africaine rencontrant la plaque européenne, etc.
Bon. Et donc, et tout ceci récemment, il y a une quarantaine de millions d'années.
Et donc, on est dans ce rapport au temps qui est à la fois le temps long et qui est en même temps la pleine présence, parce que c'est un cadeau magnifique.
Alors en même temps, on voit ces montagnes qui continuent effectivement à monter, parce que ça pousse encore, et qui s'effritent aussi, parce que là, le réchauffement climatique, on ne va pas le détailler, parce que aussi bien la Terre au carré fait très bien, nous on l'avait déjà fait aussi depuis pas mal de fois, mais sur ce thème. Je voudrais revenir avec vous quand même sur d'autres choses, c'est-à-dire que lorsque vous parlez de transition, vous reprenez, vous êtes vraiment amis avec Edgar Morin, que l'on salue, vous parlez plutôt de métamorphose plus que de transition.
Oui, parce que il faut bien voir que la nature de la mutation, de la transformation devant laquelle nous sommes, c'est plus qu'une transition. Hein. C'est vraiment l'humanité, pour réussir sur ce chemin de crête, et je crois qu'elle peut réussir, elle a besoin de comprendre que c'est quelque chose qui est comparable à une métamorphose, c'est-à-dire il faut accepter, pour qu'il y ait métamorphose, il faut deux conditions. Il faut d'une part que le désir d'imaginaire, hein, ce qu'on appelle les cellules imaginales, soit très important. Il faut que le désir du papillon soit très important et qu'il puisse surmonter ce qu'est la peur de la chenille, parce que du point de vue de la chenille, le papillon, c'est la fin de son monde. Et donc ce rapport entre le désir et la peur est au cœur de la métamorphose. Et ça, on comprend bien que c'est aussi un problème d'énergie, mais d'énergie émotionnelle. C'est cette capacité à considérer que l'avenir est possible, que l'avenir peut être désirable, et que du même coup, on surmonte la peur des transformations nécessaires.
Une jeune fille qui a de l'énergie, c'est Greta Thunberg, on le sait, c'était en 2019.
Bonjour, je m'appelle Greta Thunberg et merci pour l'invitation. Now political leaders in some countries.
Certains leaders politiques dans certains pays commencent à parler, commencent à s'exprimer, à déclarer une urgence climatique et à poser des jalons pour aboutir à la neutralité carbone. Déclarer cette urgence climatique est une bonne chose, mais établir ces jalons très vagues et dire toutes ces choses nous donne l'impression que les choses sont en train d'être faites, que les actes sont posés, et cela risque d'être plus nuisible qu'autre chose, car nous savons que les changements ne sont pas à l'horizon. Pas plus en France qu'au Royaume-Uni, nulle part. Et je suis convaincue que le plus grand danger, ce n'est pas le fait d'être inactif. Le plus gros danger, c'est lorsque les entreprises, les politiques font semblant d'agir alors que rien n'est fait.
Alors, Patrick Vivray, souvent, je veux dire, pas toujours, mais souvent, les discours écologistes, on va dire les plus médiatiques, sont plutôt quand même de relèvent plutôt de la colère et de la peur. Vous vous dites qu'en fait, la colère est absolument nécessaire, à condition qu'elle nous amène donc vers de la vie, vers de la créativité.
Oui, oui. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un bouquin sur ce thème, autour de la question de la colère et de la joie, en disant il faut mobiliser l'énergie de la colère dans ce qu'elle a de légitime face à de l'insoutenable. Et il y a de l'insoutenable sur le plan écologique, comme il y a de l'insoutenable sur le plan social, des inégalités, etc. Donc, en ce sens-là, la colère est légitime, mais à condition que cette colère soit au service de la vie et d'une vie qui est elle-même considérée comme désirable. Sinon, au lieu d'être dans le sens de ce qu'on peut appeler la radicalité créatrice, d'aller à la racine des défis de l'humanité, elle devient de la révolte purement destructrice.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ce système donc ultra-consumériste qui nous envoie dans le mur, on le sait, on va dire que Blaise Pascal appelait ça peut-être le divertissement, donc à son époque, hein, donc c'était. Et est-ce qu'on a d'autres voies, parce que quand vous parlez de sobriété, ça accroche pas des masses, hein, quand même. Pour une partie de la population, oui, mais ça parle pas quand même à l'ensemble. Est-ce qu'il peut y avoir une suite à notre société, on va dire, individualiste? Et est-ce qu'il y a des alternatives, je veux dire, assez fortes qui sont là pour dire, voilà, on peut vous proposer autre chose?
Alors, d'abord, moi, quand j'utilise le terme de sobriété, et comme d'ailleurs Pierre Rabhi le fait très souvent, je caractérise toujours le terme en parlant d'une sobriété heureuse. Parce que on ne peut renoncer à des éléments d'excès ou de surplus dans l'ordre matériel, renoncer en quelque sorte à l'ébriété, que pour autant que l'on a une densité dans l'ordre du sentiment d'être vivant supérieur. Il faut gagner en densité d'être, pourrait-on dire, ce que l'on va perdre en captation dans l'ordre de l'avoir.
Là, et Pierre Radin nous en disait en fait que la vie était un troc, c'est-à-dire, voilà, je suis capable d'abandonner quelque chose, mais qu'est-ce que tu me donnes à la place?
Exactement, exactement. Mais ça, par exemple, les amoureux, puisque nous sommes à Saint-Valentin, le comprennent bien. C'est-à-dire, quand on vit l'intensité de l'amour, dans 90% des cas, on est dans un rapport de gratuité. Et même quand il y a un rapport marchand, par exemple offrir des fleurs à sa bien-aimée, on sait bien que ce qui compte, ce sont les fleurs.
Ah oui.
C'est pas l'acte marchand en question. Et donc, c'est typiquement une situation dans laquelle la densité de vie, le sentiment amoureux, est supérieure à l'acte marchand qui est du côté de l'avoir. Et c'est cette désirabilité-là qu'il faut mettre en œuvre. Sinon, évidemment, la sobriété paraît un renoncement sacrificiel.
Alors, j'aurais bien voulu vous lancer aussi un peu sur Gonesse, parce que vous connaissez le sujet. Enfin, on l'a fait donc le 31 janvier, dans C'est haut de mon amour. Et ça commence à devenir donc une ZAD. Peut-être un petit mot très très rapide dessus.
En tout cas, c'est un bon exemple de cette confrontation des plaques tectoniques. Parce que, d'un côté, on dit, et c'est légitime, Europa City, c'est pas possible, parce que là, c'est vraiment la caricature de l'économie dominante. Mais le naturel revient au galop, c'est-à-dire que là, maintenant, on est en train de nous dire, ah ben oui, mais il faut quand même faire une gare. Et comme ça n'a pas de sens de faire une gare au milieu des champs, il faut
C'est un cheval de Troie.
Voilà, c'est un cheval de Troie. Et donc, il faut, à un moment donné, changer de thermomètre. Moi, j'avais, dans mon rapport sur la richesse, j'avais dit, nous avons des thermomètres qui nous rendent malades. Ben, à un moment donné, il faut changer de critère et d'unité de mesure.
Alors, j'ai pas pu avoir le 0,6 de Spinoza, donc parce que la division passe très très mal aussi en ce moment du côté de la haie, mais vraiment, vous appelez cet homme-là, ça privilégie la voie qui nous apporte de la joie.
Oui, parce que la joie, c'est justement ce qui nous donne le sentiment de l'intensité de vie, qui fait que je suis pas simplement dans l'éphémère de l'excitation, parce que l'excitation, elle appelle très vite la frustration, oui, voire la dépression, et elle est éphémère. Dans la joie, je suis à la fois dans l'intensité, je peux être dans l'intensité de l'amour, l'intensité de la beauté, mais cette intensité-là ne me déséquilibre pas, et je peux être du même coup, simultanément, dans la sérénité. Et ça, c'est le cœur de la joie de vivre.
Vous nous avez fait beaucoup de bien, Patrick Vivray, donc émission évidemment trop courte dans ce genre de cas, mais vous reviendrez sûrement avec donc cet ouvrage qui devrait sortir au mois de juin à peu près.
Oui, c'est ça.
Ça. Merci à Clément Berman, à Camille Blanès, à Xavier Pessugia qui a réalisé l'émission, à Anne Gouzon qui nourrit les sites. La semaine prochaine, je vous emmènerai du côté de Lille, on parlera de nutri-écologie. Vous allez voir, c'est très intéressant, avec aussi de jeunes maraîchers et des enfants dans différentes classes. Le podcast, aussi bien là-dessus du Mon Petit Loup que C'est haut de mon amour, vous en avez l'habitude. Abonnez-vous! Denis Chessou pour le Twitter. Et puis, dans quelques instants, ce sera une journée particulière avec Zoé Verrier. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de dimanche.